got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice?
Bonjour à toutes et à tous, toujours ravie de vous retrouver pour ces chroniques de Maître Marie, toujours enregistrées à mon cabinet rue Bayard, mais j'espère que nous pourrons bientôt retrouver notre studio. Cette semaine, comment passer à côté de la loi de sécurité globale ? Loi par laquelle le gouvernement a fait le choix d'une procédure accélérée, une seule lecture à l'Assemblée nationale, une seule lecture au Sénat. Loi débattue, si l'on peut dire, alors qu'on est en plein état d'urgence sanitaire et que force est de constater que les manifestations ne sont pas légion et qu'il y a surtout d'autres préoccupations en ce moment. Loi qui ratisse large et se veut hyper sécuritaire puisqu'on aborde sur 5 titres les pouvoirs confiés aux polices municipales, la sécurité privée, la vidéoprotection et captation d'images et les forces de sécurité intérieure. Alors l'Assemblée nationale a voté tard vendredi 20 novembre au soir, voire dans la nuit, et ça dans une assemblée barricadée et encerclée de camions de CRS. Rien que ça, ça doit poser question. La mesure la plus controversée de la proposition de loi, celle qui consiste à pénaliser la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre, avec des garanties du gouvernement en faveur du droit d'informer. On y reviendra. Article 24, dont le retrait pur et simple était demandé par le défenseur des droits, Claire Hédon, adopté par 146 voix pour et 24 contre, sur un hémicycle qui comporte, je le rappelle, 577 sièges. Je vous laisse faire le petit calcul sur le taux de présence et le taux de votants. C'est rassurant de voir comment on légifère en France aujourd'hui. Dans la même nuit, avec des proportions différentes mais tout aussi hallucinantes, ont été adoptés les autres articles tout aussi controversés de cette proposition de loi. Revenons donc sur ces différents articles et ce qu'ils font craindre, ainsi que sur leur intérêt ou leur inutilité. Commençons avec l'article 24, le plus polémique. Il vient modifier directement la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Dans sa version initiale, il était ainsi rédigé. Et puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. Où le bas blesse-t-il dans cette version originale ? Un peu partout, ai-je envie de vous dire. Mais déjà, en premier lieu, l'absence de distinction entre le manifestant lambda et le journaliste intervenant pour couvrir une manifestation. Tout le monde est logé à la même enseigne. Par ailleurs, le droit d'informer et la liberté de la presse font partie des libertés fondamentales, émergeant de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion et garantie par la loi du 29 juillet 1881 et surtout considérée comme garant de l'existence d'une démocratie. D'où le vent de contestation supplémentaire lorsque le Premier ministre a eu la fausse bonne idée de suggérer une demande d'accréditation des journalistes pour couvrir les manifestations. Soupçon de régime dictatorial, bonjour ! Cette interdiction de diffusion obligerait les journalistes à flouter le visage des policiers, or les journalistes l'expliquent, le floutage demande des moyens et du temps, et par conséquent on perdrait dans un premier lieu la réactivité de l'information, mais également et surtout, il serait à craindre qu'en l'absence de moyens suffisants, des journalistes renoncent tout simplement à diffuser les images de peur d'être sanctionnés pénalement. Or, les journalistes sont les premiers témoins et dénonciateurs des violences policières quand il y en a. Et là où on comprend qu'ils dérangent, c'est lorsqu'on regarde les chiffres de garde à vue. En 2018, en France, le nombre de placements en garde à vue de journalistes a considérablement augmenté par rapport aux années précédentes. Alors, qu'est devenu le texte dans sa dernière version rédigée et votée ? Eh bien, on a juste rajouté en tête d'article « sans préjudice du droit d'informer » et que la diffusion pourrait être sanctionnée si elle avait été faite dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Autrement dit, on renvoie au magistrat correctionnel la patate chaude d'apprécier le respect de la liberté de la presse, mais encore et surtout le but manifeste. Et alors là, pour de la notion floue sans sécurité juridique, sincèrement, tu peux pas mieux faire. Était-il utile cet article, mis à part pour satisfaire les syndicats demandeurs et préparer les prochaines échéances électorales, bien sûr ? Eh bien non, parce que tant le code pénal que la loi de 1881 répriment déjà des faits similaires et les débordements et que la diffusion de données et informations personnelles est également sanctionnée. Mais il n'y a pas que l'article 24 qui inquiète dans cette loi. Il y a également l'article 21. Dans le projet de loi, voici ce qu'il est écrit. Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et au personnel impliqué dans la conduite et l'exécution de l'intervention. Mais il y a également l'article 22. Dans l'exercice de leur mission de prévention des atteintes à la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent procéder au moyen de caméras installées sur des aéronefs à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images aux fins d'assurer, notamment, la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public, ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de maintenir ou de rétablir l'ordre public. Une fois dit tout ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Bien, l'article 21, c'est l'utilisation de caméras individuelles avec au besoin croisement avec les fichiers de la police et de la gendarmerie pour des reconnaissances faciales en direct. Et l'article 22, vous l'aurez compris, c'est l'autorisation de drones pour surveiller les manifestations. La première difficulté, c'est qu'entre les caméras fixes déjà existantes dans les rues et ces nouveaux dispositifs, il y a une généralisation de la surveillance de l'espace public et de fait plus d'anonymat nécessaire au respect de la vie privée. Si vous avez vu ce film avec Tom Cruise qui s'appelle Minority Report, ça vous rappellera quelque chose. Et si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, là aussi, ça va vous rappeler quelque chose. Quant aux drones, l'autre difficulté, c'est que si vous commencez à les autoriser pour cela, leur utilisation va progressivement et nécessairement s'étendre pour d'autres choses. Et là encore, on se heurte à l'intimité, à l'anonymat et au respect de la vie privée. Et ce que dénoncent également des organismes comme la Ligue des droits de l'homme, c'est qu'aujourd'hui, l'utilisation des drones n'a aucun motif d'intérêt général, mais est en revanche utilisée pour les manifestations pour permettre ce qu'on appelle le nassage, c'est-à-dire le regroupement des manifestants dans un lieu dont ils peuvent difficilement sortir en suivant, et le gazage à tout va. Et c'est donc le droit de manifester qui est directement menacé par ces deux dispositions. Mais ce n'est pas tout. L'article 1er de ce projet de loi prévoit toujours plus. Je vous le lis. À titre expérimental, les communes employant au moins 20 agents de la police municipale, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent, pour une durée de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures d'application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées au grand 2 à grand 6 du présent article. Et comme on codifie à droit constant, c'est fantastique parce que du grand 2 au grand 6 que je viens de vous citer, eh bien on renvoie à divers textes en vigueur sans donner le détail. À vous d'aller lire d'abord le projet de loi, ensuite les textes visés. Mais en toute hypothèse, par exemple, eh bien de l'immobilisation d'un véhicule pour une infraction au code de la route à une confiscation du bien ayant servi à commettre l'infraction ou pour des contraventions de 5e classe, la police municipale deviendrait compétente. Il passerait donc du PV stationnement au PV pour consommation de stupéfiants, comme ça, ou encore du PV de stationnement à la vente à la sauvette. Mais pas partout, selon les villes, selon leur effectif, selon décision du maire ou non, et rappelons-le, avec certaines polices municipales armées. C'est très clair tout ça. Et bien sûr, dans le texte, aucune précision sur la formation des policiers municipaux à tout ça. Ça va être rigolo de passer du PV de stationnement au PV pour consommation de stupéfiants avec quelqu'un face à soi qu'on ne maîtrise pas forcément et dans l'exercice duquel on n'est pas formé. Mais enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Et puis c'est pas tout, parce que nous allons aussi doucement vers une privatisation de la sécurité. Pourquoi ? Parce que le texte prévoit tout simplement la possibilité de sous-traiter des prestations et marchés de sécurité intérieure à des entreprises de sécurité privée. On se plaît souvent la tête de nos amis américains avec leurs agents de sécurité privés genre l'homme qui tombe à pic, Cold Seavers. Là aussi, très bonne série à revoir d'ailleurs également. Eh bien, ce serait moi, je rigolerais pas bien longtemps parce que ce genre de texte nous y amène doucement. Et la longueur des articles et conditions posées montre à quel point il sera délicat de confier à des finalement des citoyens lambda dont on ne sait rien ce que sont des missions de sécurité intérieure primordiales. Alors, en synthèse, 10 minutes et une chronique, c'est très court. Une loi sécuritaire, hyper sécuritaire, mais toujours dans une idée de libéralisation, de privatisation, de rationalisation des coûts, ce qui est une aberration concernant nos forces de l'ordre et les services censés protéger la population. Une loi votée en procédure accélérée dans une assemblée sous haute protection policière et en plein confinement sanitaire à une heure où les rues sont vides et la majorité des députés absents vu le décompte des voix. Pour tout cela, une loi inquiétante donc. Et je ne peux donc que vous engager à apprendre, réapprendre, vous souvenir de ce que sont nos libertés. Ces libertés fondamentales dont je vous rebats les oreilles. Ces libertés dont, pour la majorité d'entre nous, nous avons profité et joui depuis notre naissance. Mais ne nous comporte pas comme des enfants gâtés en nous disant qu'elles sont dues et qu'elles seront toujours là. J'entends tellement ça en ce moment. « Oh, mais ça va, c'est pas grave. Moi, ça me concerne pas. Oh, et puis vos caprices de liberté, ça va. » Oui, sauf que là, on n'est pas sur la liberté de chacun, on est sur les libertés de tous, ce qui fait un petit hiatus, nonobstant les difficultés de compréhension de certains sur le sujet. Car non, les libertés, même durement acquises, sont fragiles, et il ne faut jamais, jamais ni cesser d'y veiller, ni cesser de les faire respecter, ni cesser de se battre au besoin pour elles. Alors surtout, gardez vos oreilles et vos esprits en veille, et on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour de nouvelles chroniques de Maître Marie.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice?
Chers auditeurs, bonjour. Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». Je vous propose cette semaine un nouveau roman, « La suerte de matar » de Frédéric Coudron, qui est un auteur né dans la région de Lille, vivant à Dax, et qui a publié une dizaine de romans policiers, les chroniques d'Alessandro Calderon. « La suerte de matar » est son premier roman, « Au diable vauvert ». Je vous propose de débuter par une note de l'auteur explicative du titre. La suerte de matar peut être traduit par la chance de tuer, mais également par extension par la mise à mort. Plus généralement, dans le monde de la tauromachie, suerte, qui signifie chance ou sort, désigne à la fois toutes les phases de la lidia, l'ensemble des actions du torero dans son combat, mettant en valeur les qualités de l'animal et réduisant ses défauts, mais aussi une technique particulière du torero lorsqu'elle est employée dans l'expression « cargar la suerte ». Débutons donc par deux chapitres. 15 août 2018, Dax. Dans le patio de Caballos, en cette dernière journée des férias de la cité thermale, une centaine d'aficionados triés sur le volet attendaient la sortie du héros du jour. Une légende vivante de la corrida, la star incontestée, l'icône Manuel Ortega. Ce jour-là, dans les arènes si pleines qu'elles semblaient tutoyer le soleil, le maestro madrilène, déjà considéré comme divinité de l'art taurin, réinventa la tauromachie lors d'un seul contre six historique. La définition même de la perfection. Un taureau gracier, 11 oreilles, une queue symbolique, une corrida parfaite. Ce 15 août, Ortega livra 6 faenas pleines de quiétude et de beauté, affrontant 6 adversaires comme s'il était en promenade. Il atteignit une forme de plénitude, laissant les 8000 spectateurs subjugués et pantois. Le temps s'était arrêté. Porté sur les épaules, à Ombros, il eut les honneurs de la foule massée dans le parc Théodore Denis, devant la porte principale des arènes. Désormais, dans son habit de lumière noir et or, le corps fièrement tendu, la tête droite, froid, impassible, il fendait une horde d'admiratrices, toutes plus en extase les unes que les autres. Il faut dire qu'il était d'une incroyable beauté. Grand, svelte, le corps rassé, parfaitement moulé dans son traje de luces. Les yeux d'un noir perçant, les cheveux de jais gominés et plaqués en arrière, filant vers une colletta naturelle. Les traits fins, le nez aquilin, son charisme hors norme le rendait irrésistible. Presque inhumain, céleste. Sans parler, ni regarder celles qui lui tendaient photos ou petits morceaux de papier, il signa une dizaine d'autographes et accepta quelques selfies. Enfin, Il s'avança en direction du van dans lequel il devait repartir. Mais à 10 mètres du véhicule, un groupe de flics en uniforme l'encercla. Ils le menottèrent et le saisirent par les coudes pour l'emmener vers la sortie du patio dans l'incompréhension générale sous la branca. Les peones essayèrent de s'interposer. En vain. Tout le monde était affolé, sauf lui. Aucun stress dans son regard. Aucune peur. Il n'avait jamais peur. Il fut embarqué manu militari et le fourgon de police démarra en trombe, sirènes allumées. 2 mois plus tôt, Paris. Ce matin-là, j'étais convoqué par Vincent Lavessière, mon responsable au siège de TF1. Je n'en menais pas large, car je savais que la chaîne devait procéder à des coupes budgétaires. Je tenais à mon poste. J'aimais mon métier, journaliste d'investigation. Je savais qu'à 37 ans, il ne serait pas facile de retrouver du boulot. J'étais diplômée en criminologie. Les enquêtes criminelles étaient mon élément. J'avais suivi les procès Fourniret, Francis Holm, l'affaire du tueur de l'Est parisien, avec un sens de l'analyse qui me permettait d'être toujours au bon endroit, au bon moment. J'avais rencontré les pires assassins de la planète en compagnie de mon ami Stéphane Bourgoin. J'aimais fouiller, remettre en question le travail de la police lorsque nécessaire, sonder la noirceur de l'âme humaine, la comprendre sans l'excuser. Ce job était ma passion. Je ne voulais absolument pas le perdre. On peut donc dire que j'étais stressée lorsque je passais la porte du bureau de mon supérieur. Fondu dans un costume sombre, debout face à la baie vitrée, il me demanda de m'asseoir sans même me regarder. Je détestais cet homme. Et pourtant, j'en avais été éperdument amoureuse 2 ans plus tôt quand j'avais commis l'erreur de devenir sa maîtresse. Notre relation avait duré 6 mois. Au début, je le trouvais drôle, brillant, intelligent, très attirant, charismatique. Il avait 10 ans de plus que moi, un physique avantageux et était toujours tiré à 4 épingles. Il disait de moi que j'étais particulière et intelligente, que je le reposais. Il était très attentionné, multipliant les rendez-vous romantiques dans les plus beaux restaurants et hôtels de la capitale. Il disait même qu'il m'aimait, qu'il était follement amoureux. Et j'y croyais. Mais le rêve ne dura pas. Après quelques semaines, il se fit un peu plus distant. Nos rencontres s'espacèrent, il prétextait des problèmes familiaux, des soucis avec nos hauts dirigeants. En réalité, il trompait son épouse avec une autre fille. Une fille plus jeune, probablement plus jolie, et possédant l'attrait de la nouveauté. En fait, comme tous les gosses gâtés, il s'était lassé. Terminé les mots d'amour. Fini les 5 à 7 torrides. Du jour au lendemain, il m'avait abandonné, sans aucune émotion, sans aucun sentiment de culpabilité, et j'étais redevenue sa subordonnée. J'avais bien essayé de demander une explication. Il s'était contenté de dire que si je tenais à ma carrière, j'avais intérêt à ne pas faire trop de bruit. Il avait le bras long. J'avais soigné ma déprime à grands coups de Xanax. Assieds-toi, Lise. Il me laissa m'installer en marquant une pause toute théâtrale. Il aimait se mettre en scène et cela m'avait beaucoup plu au début. Cela lui donnait une prestance, une assurance folle, de prime abord. Car il n'y avait rien derrière. C'était un être creux, une belle vitrine uniquement. Il reprit la parole. Tu sais nos difficultés financières en ce moment. Oui, j'en ai entendu parler. Sache que c'est pire que ce que tu as pu entendre. Nous sommes vraiment dans le rouge. Je suis virée, c'est ça? Ne tourne pas autour du pot si c'est ce que tu as à me dire. Calme-toi, s'il te plaît, et use de notre ton. Non, tu n'es pas virée. J'ai fait en sorte qu'ils veuillent bien te garder, et ça n'a pas été facile. Ils veulent faire des économies de fonctionnement à tous les niveaux. Vincent souhaitait toujours avoir le beau rôle. J'étais persuadée qu'il n'avait pas levé le petit doigt pour moi face aux dirigeants de la chaîne. Mais il jouait les sauveurs pour que je lui sois reconnaissante et redevable. Je me contentais de le regarder, interrogative. Il laissa planer un silence pour ménager son effet. « Mais il va falloir que tu changes un peu de registre. c'est-à-dire. Les affaires criminelles, c'est fini, Lise.
Quoi ?
Ils ont dû replacer un type du groupe. Je ne te cache pas que son père est bien placé. Il reprend ce créneau.
Le fils Muliez ?
On ne peut rien te cacher.
Mais c'est un vrai connard, il n'a aucun sens logique.
Ne me rends pas les choses compliquées, Lise. J'ai fait ce que j'ai pu et je te conseille d'éviter de tenir ce genre de propos.
Les enquêtes, c'est ma passion, Vincent, ils ne peuvent pas me faire ça.
Je sais, mais c'est comme ça. Il faut t'y habituer ou démissionner.
Et ils me proposent quoi ?
De couvrir des sujets pour grand reportage.
Grand reportage ? C'est tout ce que je déteste.
La vestiaire se leva et se mit à tourner autour de ma chaise, lentement.
Essaie de voir les avantages.
Tu vas voyager et tu auras beaucoup de temps pour tourner tes sujets.
De 2 à 6 mois, tu imagines ? Tu pourras faire de la qualité.
Et qui va s'occuper de Loane pendant que je serai à l'autre bout du monde ?
Il plaça ses mains sur le dossier de ma chaise.
Ton père pourra s'en occuper. Tu faisais comment durant nos week-ends à Rome ou à Londres ?
Ses doigts effleurèrent ma nuque. Il était mielleux, comme à notre grande époque. Il me répugnait.
Je me dégageais de son emprise, nerveusement.
Elle n'a que 8 ans. Entre un week-end de temps en temps et des semaines entières, il y a une marge.
Vexé d'avoir été repoussé, il s'agaça.
De toute façon, tu n'as pas le choix, c'est ça ou la porte, Lise.
Et si je balançais tout à ta femme pour nous et pour ta nouvelle maîtresse ?
Ne joue pas à ça, si tu veux encore exercer dans ce métier, évidemment.
Et je commencerai quand ? Dans l'hypothèse où j'accepterai, évidemment.
La semaine prochaine. Un tournage de 2 ou 3 mois.
Sur quel sujet ?
Manuel Ortega.
C'est qui celui-là ? Un baron de la drogue ?
Non. Le meilleur matador du monde.
Quoi ? Un reportage sur la corrida ? Sur cette barbarie ? Ils ont pété les plombs à la programmation ou quoi ?
Le reportage est sur le mec. Un type odieux, imbu de sa personne et arrogant.
Il faudra qu'il soit un peu à charge pour être politiquement correct. Les politiques et la PETA nous regardent.
Rassure-moi, je ne devrais pas assister à une corrida. Ils ne veulent pas d'image dans les arènes.
Si. Tu vas suivre le torero pour une petite partie de sa saison. À Mexico, Madrid et en France.
Tu as de la chance, il t'aurait peu. Tu auras Paco comme caméraman, il pourra te servir d'interprète.
Tout, mais pas ça, Vincent, ils n'ont pas un autre sujet.
C'est à prendre ou à laisser, Lise. Je vais devoir y aller, j'ai un rendez-vous à l'extérieur.
Prends ça comme une enquête.
Après tout, il y a une victime, le taureau.
Je voulais poursuivre la discussion, mais Vincent avait déjà enfilé sa veste et franchi la porte du bureau.
Je restais seule, sur ma chaise, désemparée.
Je mis quelques minutes à accuser le choc. Vincent venait de balayer tout ce que j'aimais de mon métier.
J'essayais de me raisonner. J'avais de la chance d'avoir du boulot. J'avais besoin de mon salaire pour nourrir Loane.
Cependant, je ne parvenais pas à m'en satisfaire. Je gagnais finalement la salle de repos. Là, sur la terrasse, je me saisis d'un paquet de Vogue dans mon sac. Il ne restait qu'une cigarette. Vieille de plus de 2 ans, datant du 2 mars 2016, jour où j'avais arrêté de fumer. Je l'allumai. La fumée me brûla les poumons. Une agréable impression de planer m'envahit quelques instants.
Voilà, chers auditeurs, ce sera tout pour cette semaine. Je vous invite bien évidemment à me retrouver la semaine prochaine pour la suite de cette lecture. Mais je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes les émissions de la radio sur www.espritoccitanie.fr ou sur l'application mobile pour smartphone. Bonne semaine, à bientôt !